n'était pas tout à fait prêt. Vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac.
Ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous revoilà sous l'œil d'une caméra subjective qui, cette semaine encore, a prévu de balayer en travelling l'actualité du cinéma, de soigner ses gros plans sur des films qui nous ont plu et de dézoomer avec une chronique humeur qui fait travailler nos zygomatiques. Cette semaine encore, l'émission s'est écrite à plusieurs voix. Bonsoir Lisa.
Bonsoir.
Bonsoir Anne-Li.
Bonsoir.
Bonsoir Véronique.
Bien le bonsoir.
Bonsoir Matt.
Bonsoir.
Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Bon là je crois que j'ai fait le tour, je me souhaite aussi bonsoir. Alors Matt, tu nous proposes un nouveau billet d'humeur et d'humour, ce sera juste après la pause musicale.
Margot, tu nous parleras en fin d'émission du trouble qui peut s'emparer des personnages.
Et pour commencer, Annie, tu as choisi de nous parler d'un film qui sortira la semaine prochaine dans les salles.
Oui, il s'agit du dernier film de Mia Hansen-Love qu'elle a écrit et réalisé, Un beau matin. On y suit le quotidien de Sandra, qui élève seule sa fille, elle est traductrice, mais surtout, elle doit faire face à la perte d'autonomie de son père, Georg, et elle noue un nouvel amour avec Clément, un ami retrouvé par hasard, qui est par ailleurs marié. Alors côté casting, on retrouve Léa Seydoux, Melville Poupeau et Pascal Grégory, auxquels la réalisatrice a pensé dès l'écriture du scénario. Comme souvent, Mia Hansen-Love a puisé dans sa propre expérience pour imaginer ce film, qui se concentre vraiment sur ces deux temps parallèles dans la vie de Sandra, son personnage principal, l'accompagnement de son père et une relation naissante compliquée. On comprend tout ça dès la bande-annonce.
Où est la clé ?
La clé, elle est dans la serrure. Tu la laisses toujours sur la porte.
Mais où est la porte ?
La porte, elle est en face de toi. Et la clé, elle est dans la serrure.
On n'a pas le choix, il faut le mettre en EHPAD. Ton père, avec sa retraite de prof, ne peut pas souffrir. Et personne dans la famille n'a ce type de moyens.
Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces livres ?
Bah, je sais pas. Les donner ou les jeter.
Mais ces livres, c'est toute sa vie.
C'est bien ici pour M. Kinsler ?
Oui, c'est ici.
Vous êtes ?
Son ex-femme.
Je vais le mettre dans le fauteuil, comme ça il n'aura pas remarché.
Ce qui était terrible pour lui, c'est de se rendre compte que c'était son cerveau qui se détraquait. Parce que toute sa vie, il l'avait consacré à la pensée.
Sandra Kinsler ?
Oui ?
Vous êtes la fille de Georg Kinsler ?
Oui, c'est moi.
Tu fais un prof génial, ça m'arrive encore de relire, c'est pour...
Pardon, au revoir. Moi, tu me vois ?
Ah bah oui, bien sûr, oui, je te vois.
Et est-ce que tu peux me dire si j'ai les cheveux courts ou longs ?
Il pourrait être long.
Clément ?
Je te reconnaissais pas avec les lunettes.
Je crois que j'ai jamais cru que ce serait possible entre nous. Que je pourrais te désirer autant. On va devoir le mettre dans un EHPAD privé en banlieue en attendant mieux. Il faut que vous allez le voir avec ta sœur. Oui.
Tête de mort.
Ça me fait mal de penser que tu vas retrouver ta femme. Avec moi.
Un beau matin sort en salle le 5 octobre. Vous connaissez maintenant tous les éléments au cœur de ce film et nous laissons Mia Hansen-Love nous parler de son écriture. Nous avons pu la rencontrer à l'occasion de sa venue pour l'Estival de Premier Plan à la fin de l'été.
Votre film, il nous emmène dans deux histoires parallèles qui sont au centre de la vie de Sandra, à la fois l'accompagnement de son père dans la vieillesse, la maladie, et aussi cet amour naissant. Ces deux dynamiques qui sont vraiment opposés et qui se croisent très rarement dans le film, uniquement à la fin. C'est vous qui avez aussi écrit le scénario. Et je me demandais comment, alors c'est en puisant dans votre histoire aussi, en lien avec votre père, Ole Hansen Love, et sa propre maladie, comment il y a eu ce besoin d'en faire un film ?
En fait, je crois que le processus d'écriture de ce film a été un petit peu le même que celui de l'avenir. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il y a des films qu'on écrit par choix. Enfin, il y a toujours une nécessité à un endroit, mais en tout cas, il y a des films dont on embrasse le désir d'écriture, et puis il y en a d'autres avec lesquels on est plus en résistance et qui s'imposent à vous. Et pour moi, ce film, comme l'avenir, était plutôt dans cette catégorie. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai pas voulu faire. C'est un film que j'ai été obligée de faire, que j'ai dû faire, parce que après Bergman Island, le film que j'ai fait avant, quand on s'est posé pour moi la question de me remettre à ma table d'écriture et de me projeter dans l'avenir, je me suis rendu compte que je ne pourrais rien écrire tant que je n'aurais pas écrit sur ce thème. En quelque sorte, pour le dire brutalement, je pourrais dire que j'ai écrit ce film pour m'en débarrasser. Mais je mets aucune chose négative là-dedans. Je ne crois pas que que ça rend le film plus sombre ou plus désagréable. Enfin, j'espère pas du tout. Simplement, il y a quelque chose de l'ordre d'une nécessité intime. Il y a peut-être quelque chose de plus douloureux dans le processus initialement. Et en même temps, je trouve ce que je continue de trouver assez merveilleux dans le cinéma, et c'est pour ça que je fais des films, c'est à quel point on peut trouver du plaisir, grâce à la fiction, à revenir sur des moments d'une vie qui, quand on les a vécus, ont pu être très difficiles.
Et là, justement, il y a ce point de départ qui est très proche de votre vie. Pourquoi vous avez aussi décidé d'ajouter toute cette histoire d'amour qui prend aussi beaucoup de place dans ce film à la vie de Sandra, votre personnage principal ?
En fait, je ne crois pas avoir décidé de l'ajouter. Alors, je comprends très bien que ça paraisse comme ça, parce que la dimension autobiographique associée à la maladie du père est beaucoup plus évidente. Et puis je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais en fait c'est plutôt le constat de cette simultanéité qui peut y avoir parfois dans la vie entre un moment extrêmement douloureux, un moment de deuil qui semble vous dire que la vie n'a pas de sens et que le fond des choses est noir, et un moment très heureux qui peut vous rassurer au contraire sur la beauté de l'existence. Et cette concomitance et tous les doutes et les questionnements et le vertige qui va avec, c'est bien ça qui a été au point de départ du film. Je parle plus facilement évidemment de je ne sais pas si c'est évident, mais en tout cas je parle plus facilement de la dimension très littérale autobiographique liée à la maladie de cet homme inspirée par celle de mon père, mais le point de départ, ça n'a pas été que celui-là, ça a vraiment été ce constat-là. Pour vous donner un exemple, quelques mois après avoir écrit le film, j'ai perdu mon père du Covid, et en même temps j'ai eu un enfant. Bon, et c'est un exemple, c'est très banal au fond, mais je pense qu'on a tous vécu d'une façon ou d'une autre dans sa vie des moments où au même instant, dans la même période, on vivait des sentiments très contraires, on était ballottés entre des choses absolument opposées, et ce sont ces moments qui vous donnent le sentiment d'être vraiment au contact avec les sens de la vie, quoi, dans ce cas-là de brutal, de cruel, de tragique, mais aussi de très beau. Et donc c'est cette intensité, ce moment d'intensité là que j'ai voulu essayer de retranscrire. Et la question s'est posée pour moi parce qu'il y a ces deux pans qui sont très différents dans le film, qui cohabitent, et je n'ai pas voulu artificiellement les créer des ponts qu'il n'y avait pas, et j'ai pensé que ces ponts-là, ils se passeraient à l'intérieur du film, dans l'intériorité du film, et qu'il n'y avait pas besoin de les provoquer ou de les par des artifices de scénario. Donc c'est vrai que dans le film, on voit cohabiter ces deux choses, ces deux dimensions de la vie, un deuil d'un père et puis une renaissance à travers un nouvel amour, sans que le lien et le dialogue que ça peut provoquer à l'intérieur de soi, sans que cette chose-là soit très explicite.
On ressent une grande simplicité, alors dans un sens plutôt d'épure dans le film, du côté de la mise en scène, du jeu des acteurs et des dialogues. Et j'avais envie justement que vous nous racontiez un peu comment vous aviez travaillé ces dialogues. J'ai senti peut-être une volonté de mise à distance ou qu'ils existent pour eux-mêmes. Enfin, je me suis vraiment posé la question de comment vous les envisagiez au moment de l'écriture.
Effectivement, j'ai travaillé par couches pour arriver à la plus grande simplicité, à la plus grande épure possible. J'aime beaucoup écrire des dialogues. En même temps, je crois que mes films sont beaucoup construits avec des silences. Ce ne sont pas des films si bavards que ça, par rapport à l'image qu'on peut avoir de ce cinéma-là. Souvent, mes personnages sont assez taiseux, au fond. Et Léa, par exemple, Sandra, qui joue Sandra, l'héroïne. Sandra, elle parle assez peu d'elle, elle a du mal à mettre les mots sur les choses. Au fond, peut-être comme moi, pour le coup, je fais des films, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer à travers des films, mais je m'exprime à travers des histoires, à travers des récits, une succession de moments, pas tant à travers... Il y a des paroles dans mes films, il y a des choses qui sont dites et les mots ont un poids, mais parfois ce sont aussi des paroles très quotidiennes. Il n'y a pas énormément de moments dans mes films, et c'est vrai peut-être encore plus dans ce film-là, où les personnages disent vraiment ce qui est au cœur du film. Ces choses-là, il faut plutôt... On les comprend, on les ressent, elles passent, elles sont transmises, j'espère, autrement. Mais il y a une difficulté, en fait, de la parole. Et je pense que si c'est vrai de Sandra et de ce film en particulier, c'est peut-être parce que... au fond, parce que c'est aussi une chose qui me caractérise. C'est pour ça que j'ai pas écrit de livre, par exemple. J'ai vraiment l'impression que mon langage, c'est celui du cinéma. Alors là, oui, je crois être à l'aise dans ce langage-là, mais qui inclut l'usage de la parole, mais qui passe avant tout par une succession d'images et un récit.
Cette question de la mise en scène, enfin voilà, moi ça m'a évoqué une certaine distance avec le réel, le quotidien. Mais pour rester sur la question de la parole, j'ai eu l'impression que c'était les dialogues des personnes âgées qui finalement étaient les plus proches de ce qu'on pouvait apercevoir ou entendre dans notre vie réelle. Et je me demandais si c'était un type de parole qui vous semblait particulier. Je pense au personnage de l'arrière-grand-mère qu'on voit rapidement au début, qui voilà, moi, m'a fait penser à plein de grand-mères, de grands-pères qui lancent des choses comme ça dans l'air et on reçoit leurs paroles d'une façon un petit peu particulière. Elle est très juste, en même temps, ils sont aussi dans leur propre récit. Et je trouvais qu'il y avait aussi ce travail du dialogue, de nouer, au-delà du travail de physique que vous avez pu faire avec Pascal Grégory, aussi le travail de la voix, quand simplement il dit un oui qui reste un peu flottant en l'air, etc. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose avec la parole des personnes plus âgées.
C'est drôle que vous évoquiez ce oui de Pascal, parce qu'on a, énormément... enfin, évoquer ce oui nous-mêmes pendant le tournage, on en a ri, ça a été une sorte de leitmotiv. Pour tout vous dire, Pascal a pu entendre la voix de mon père que j'avais enregistrée, malade, et il s'en est inspiré sans chercher vraiment à l'imiter, parce que je crois qu'il l'a entendu qu'une fois, et ça lui a juste permis d'avoir une note. Mais ce oui, qui ressemble beaucoup à un oui que j'ai beaucoup entendu chez mon père, c'est pas juste un oui, c'est en fait une façon d'accepter la maladie avec une immense pudeur. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce oui. Il y a une douceur, il y a une pudeur. C'est un personnage qui dit oui, on lui dit vous allez quitter votre appartement, vous allez perdre toute votre vie, on vous met dans un EHPAD et il est incapable de se défendre, entre guillemets, il comprend à peine le sens de ça et en même temps il a l'intuition de ce que ça veut dire, et il dit oui, quoi. Et c'est un oui d'une gentillesse infinie qui me bouleverse. Et je crois que c'est une chose que Pascal a très bien compris, ce oui, et du coup, on s'est pas mal amusé d'une certaine façon avec ce oui, mais qui au fond est un oui complètement tragique. Voilà, donc je suis touchée que vous évoquiez ce oui qui veut dire beaucoup pour moi aussi. Pardon si je réponds un peu à côté du coup, mais je développe quelques points de votre question. En fait, l'arrière-grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère de ma fille. Et en fait, j'ai eu la chance immense de pouvoir la filmer quelques semaines avant sa mort. Elle avait 100 ans. Et donc, évidemment, je ne lui ai pas donné de texte. Donc la façon d'aborder la scène a été complètement différente, un peu comme on fait avec les enfants selon moi, c'est-à-dire que j'ai toujours considéré qu'avec les enfants, il faut pouvoir s'adapter entièrement à ce qu'ils sont, leur imposer le moins de choses possible, leur donner une liberté. Ma grand-mère qui avait 100 ans, qui vivait chez elle, qui était à peu près sourde, mais qui avait encore sa tête, j'allais pas venir chez elle pour lui donner un texte et lui imposer un personnage, ça n'aurait eu aucun sens. Donc en fait, on est venu dans sa toute petite cuisine avec une équipe très très réduite et puis on l'a filmée pour ce qu'elle était. Elle a mis ce qu'elle avait envie de mettre et je l'ai laissé parler, quoi. Et donc en fait, cette parole si spéciale qui est la sienne dans le film, elle vient de ma grand-mère, c'est elle, ni plus ni moins, je dirais.
Peut-être pour finir sur cette question de dialogue et de parole, il y a aussi tous ces donc ce personnage de Georg, le père, qui est en train de perdre pied dans sa pensée et qui peut avoir des phrases qui sont pas insensées, mais qui sont complètement décalées, et on va rechercher le sens, en même temps les recevoir de façon très poétique, peut-être les attendre comme des messages. À nouveau, comment ce dialogue-là, vous l'avez écrit, imaginé, travaillé ?
Ça, c'est vraiment la dimension peut-être la plus particulière, pour moi la plus atypique, qui restera comme une chose complètement à part dans mon travail d'écriture. J'avais pas mal enregistré mon père. Il y a certaines expressions que j'aurais été absolument incapable d'inventer parce que les finesses, si on peut dire, de cette maladie sournoise sont impossibles. Pour moi, enfin, aurait été impossible, même après des années d'expérience, à réinventer. Elle produisait chez mon père des formulations poétiques dont je ne cessais de me demander si elles n'avaient aucun sens ou si quand même elles traduisaient une part de sa personnalité, de sa pensée, de ses souvenirs. Et évidemment, ce questionnement et ce doute allaient en s'accentuant. Il y avait des moments où les choses semblaient complètement dépourvues de toute logique, et puis d'autres, au contraire, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un sens qui essayait de se transmettre. Et ce que j'ai trouvé très difficile, c'est de ne jamais savoir, au fond, de ne jamais pouvoir véritablement trancher. Donc en fait, dans l'écriture qui était la mienne, il y a beaucoup de choses qui sont fidèles à des expressions que j'ai entendues, que j'ai parfois notées, que j'ai parfois enregistrées. Lors de mes discussions très nombreuses avec mon père pendant les dernières années de sa vie. Mais dans tous les cas, il y a le souci de ne pas... d'être très à l'écoute, en fait. C'était une façon pour moi d'être fidèle à ce que j'ai entendu. On peut appeler ça du réalisme, on peut appeler ça de différentes façons, mais disons, pour le dire autrement, j'aurais pas été à l'aise pour créer artificiellement une folie qui n'était pas la mienne. Enfin, voilà. Donc j'ai essayé d'être vraiment au plus près de ce que j'avais entendu, de ce que j'avais retenu. Par exemple, cette expression qui m'a beaucoup marquée quand il est Pascal, le personnage de Pascal, Georg, dans le taxi, quand ses filles l'emmènent, à un moment, il dit « j'ai froid dans ma tête ». Voilà, ça s'invente pas, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai entendu, que j'avais noté, qui m'a... Et je crois que j'ai fait aussi le film d'une certaine façon pour me souvenir de tout ça, en me disant peut-être un jour, si je revoyais mon film, ou en tout cas le simple fait qu'il existe, allait me permettre de pas oublier... Ces paroles qui, avec le temps maintenant, j'ai l'impression, étaient quand même des bouteilles à la mer. Donc je pense quand même qu'il y avait une sorte de message, de quelque chose qui cherchait à être dit. Et finalement, en faisant ce film, j'ai essayé de leur donner une existence, une place, une façon qui peut paraître naïve, mais j'ai toujours cru à ça dans le cinéma, de me rapprocher de mon père au-delà de sa disparition, quoi.
Et pour finir, là vous venez de parler de réalisme, de fidélité. C'est un film qui nous plonge dans une vie qui pourrait être la nôtre, enfin qu'on pourrait croiser. Et pour autant, on ne va pas forcément s'arrêter sur « je dois payer mon loyer, c'est compliqué, etc. Ma fille boite, comment je... » Enfin voilà, il y a ces difficultés. Par exemple, nous, une relation avec un personnage qui est marié, etc., etc. On ne va pas s'arrêter sur ces contraintes, difficultés. On va plutôt être dans le fil du récit. Et je me suis demandé si pour vous, c'était un film d'évocation, de suggestion. Comment vous travaillez avec l'implicite ?
Alors en fait, d'un côté, j'ai quand même voulu être réaliste, pour reprendre le mot, dans ma façon de dépeindre la réalité de ces personnages, notamment les difficultés financières qui sont les leurs quand ils sont confrontés à la question des EHPAD. Ça passe aussi par le choix des décors. C'est une chose à laquelle je suis toujours très attentive, c'est de, par exemple, de filmer les personnages dans des lieux qui ne soient pas deux fois ou trois fois la taille, qui n'est pas deux fois ou trois fois la superficie qu'ils devraient avoir dans la vraie vie, comme c'est souvent le cas au cinéma. Ça, je me bats toujours pour ça, parce qu'on est à la tentation très forte de faire la place aux équipes et de prendre des lieux beaucoup plus grands. Et moi, j'ai vraiment tourné, par exemple, dans un studio. Le personnage de Sandra, il fallait qu'elle vive dans un tout petit appartement. J'ai tourné dans un tout petit appartement avec toutes les contraintes que ça implique, mais qui sont des contraintes, à mon sens, intéressantes. Donc, à cet endroit-là, de ce point de vue-là, le film est très réaliste dans le rapport à l'espace. Et dans le rapport aussi aux difficultés, je crois, du quotidien. Mais c'est vrai qu'après, il y a un autre parti pris, qui est celui de ne pas appuyer sur les choses, d'être dans une forme de légèreté de style. C'est un parti pris presque, je dirais, philosophique. Enfin, en tout cas, c'est une manière d'aborder le cinéma, de ne pas vouloir accabler les spectateurs, de penser qu'on peut trouver une vérité dans un récit et être lucide et transmettre ce que la vie peut avoir de violent, de cruel, sans pour autant être dans une insistance, dans une forme de lourdeur, de surlignage, comme on enseigne parfois qu'il faut le faire. Voilà. Et je me suis toujours battue contre ça et je continuerai de le faire. Donc oui, il y a une recherche d'une forme de légèreté du style qui, à mon avis, est compatible avec une recherche de vérité par ailleurs.
Thank you. Nous écoutions Clara Stiernor de Jan Johansson, un titre issu de la bande originale de Un beau matin, le dernier film de Mia Hansen-Love, que vous retrouverez en salle à partir du 5 octobre. Vous écoutez Caméra Subjective, le magazine cinéma de Radio G. Maintenant, place à Matt et à sa chronique d'humeur.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeuristes de Caméra Subjective. J'espère que vous êtes tous bien installés au chaud et au sec, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup, il n'y a plus de saison. Pour le coup là, c'est faux, hein. Le passage de l'automne se fait bien ressentir. Lors de notre première émission, il y a deux semaines, j'étais trempé de sueur, et là, pour la seconde, eh bien, je vais pas vous cacher que l'achat d'un parapluie se fait ressentir dans mon quotidien. Mais je m'égare, le cinéma dans tout ça, vous allez me dire. Nous vivons une période exceptionnelle. Enfin, je vis une période très exceptionnelle. Il y a Avatar qui est sorti. C'est merveilleux, il y a Avatar qui est sorti. Et c'est vrai que quand je dis ça, les gens ne comprennent pas parce qu'ils me disent « Mais enfin, on l'a tous vu, c'est un film qui est sorti il y a 13 ans, c'est une ressortie. » Mais moi, ce que je dois vous expliquer, c'est que j'ai grandi dans un tout petit village au fin fond de la Mayenne et que le cinéma le plus proche, c'était le cinéma associatif Le Vox à Renazé. C'est un endroit merveilleux. L'équipe est au top. Mais oui, c'est super Le Vox. C'est un cinéma merveilleux, l'équipe est au top, les places sont pas chères, les sièges sont existants. Mais je vais pas me mettre à critiquer. C'est vrai que mais juste ces petits cinémas de campagne, c'est vrai qu'il y a un petit défaut, c'est quand même dans leur sortie, on pourrait... Il y a quelque chose qu'on pourrait appeler un léger différé dans la diffusion. Tenez, pas plus tard que la semaine dernière, je suis passé devant le Vox de Renazé avec un ami cinéphile qui voit l'affiche de Jules et Jim et qui, impressionné, me dit « Waouh, mais il y a une rétrospective Truffaut dans ton cinéma de campagne !» Imaginez un petit peu sa tête quand j'ai dû lui expliquer que c'était une avant-première départementale. Vous comprenez bien qu'il y a un souci. Donc... ce que vous appelez communément la ressortie d'Avatar, chez moi, en Mayenne, on appelle ça juste une sortie. Mais bon, tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, je vis à Angers, j'ai un accès à des sorties mondiales grâce à des cinémas comme Les 400 coups, Le Gaumont Pâté, Le Cinéville des Ponts-de-Cé. J'annonce d'ailleurs à ces cinémas que mon RIB est disponible sur le site de Radio G pour la publicité que je viens de leur faire. Mais c'est une chance d'avoir un accès comme ça au 7e art. Mais pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que je n'ai jamais aussi peu fréquenté les salles obscures qu'en ce moment. Et ça, c'est parce que mes modes de consommation ont changé depuis le confinement. J'ai Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+, à qui d'ailleurs je rappelle que mon RIB est disponible sur le site de Radio G, mais ce n'est pas le sujet. Il y a beaucoup d'avantages à l'arrivée de ces plateformes. Une porte ouverte à la culture en un clic, même au fin fond de la Mayenne. Pouvoir profiter d'être chez soi et apprécier regarder son film. Malgré parfois une qualité discutable, ou des problèmes de connexion, ou les bruits de travaux du voisin d'au-dessus qui devrait déjà être fini depuis 4 mois, et à qui on a déjà posé une main courante. Voisin qui, en plus, à chaque fois que je le croise sur mon palier, me dit « Oh bah dis donc, il n'y a plus de saison, vous avez vu, on a ressorti Avatar, alors que c'est un film qui est sorti il y a 13 ans, on l'a tous vu. J'en peux plus. J'ai besoin d'air. Et je pense qu'à force d'être chez moi, devant ma télé, je tourne en rond. Et à bien y réfléchir, pour moi, rien n'a jamais remplacé l'expérience de la salle. La pleine conscience de profiter d'un film sur grand écran me manque. J'ai peut-être un canapé à 2000 euros, mais la qualité discutable des sièges du cinéma Vox de Renazé me manque. Et en plus, j'ai pas de canapé à 2000 euros, mais un sofa acheté 50 balles sur le bon coin, mais ce n'est pas le propos. Bref, allons au cinéma, chers auditeurs, il pleut. Qu'est-ce que vous voulez bien faire d'autre? Allez, allons tous ensemble, s'enfermer au chaud, dans le noir, s'oublier au fond d'un doux siège de velours rouge. Allons voir des films, et je m'engage auprès de vous toutes dans ce studio, et auprès de vous qui nous écoutez. Dans le prochain épisode de Caméra Subjective, je parlerai d'un film que je suis allé voir au cinéma, en salle. Et je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous dans deux semaines.
Merci Matt. Margot, tu nous proposes à présent une chronique pour explorer un film à partir d'une séquence sonore emblématique.
Absolument, je vais vous parler d'un film que Matt pourrait peut-être aller voir au Vox en Mayenne, parce qu'il est sorti il y a plus de 50 ans.
Bon, bah ça devrait être bon.
Mais avant de vous en parler, j'aimerais vous demander si vous aimez les travaux manuels. Bon, en ce qui me concerne, je préfère regarder des films. Mais il y a une chose que j'ai réussi plutôt bien, c'est la guirlande de personnages en papier. Pour les auditeurs et auditrices, ou les auditrices et auditeurs qui ne voient pas du tout de quoi je parle, en fait, c'est relativement simple. Vous prenez une bande de papier et vous la pliez en éventail. Sur la face extérieure, vous dessinez des bonhommes, deux par exemple, qui se tiennent par la main, puis vous les découpez soigneusement. Quand vous dépliez l'éventail, c'est magique. Il n'y a pas deux personnages, mais une multitude, tous issus des deux premiers que vous avez dessinés. Alors après cette introduction en mode tuto, qui n'avait rien à envier avec la chronique de Matt de la dernière fois, soit vous vous demandez si vous écoutez bien une émission de cinéma, soit vous me voyez venir. Le film dont j'aimerais vous parler ce soir me fait le même effet que cette guirlande de papier. Il est magique. J'ajoute qu'il est éblouissant et extrêmement drôle. Il s'agit d'un chef-d'œuvre réalisé par Billy Wilder en 1959, « Some Like It Hot » ou en français « Certains aiment chaud ». Alors le film démarre avec deux personnages, Joe et Jerry, interprétés par Tony Curtis et Jack Lemmon. Ils sont musiciens de jazz. Ce sont eux qui figurent sur la face extérieure de ma bande de papier pliée en éventail. Maintenant, je précise que le film se passe en 1929 à Chicago, en pleine prohibition. Nos deux acolytes jouent dans un bar clandestin où les apparences sont, bien entendu, trompeuses, ce qui pose déjà un décor propice à la comédie. L'établissement est officiellement une entreprise de pompes funèbres et les serveurs portent des tenues de croque-mort. Nos deux personnages, quand ils jouent dans ce tripot, sont donc des figures de contrebande, ce qui correspond à un premier dédoublement d'eux-mêmes. Il y a Joe et Jerry le jour, qui cherchent du travail en toute légalité, et puis il y a Joe et Jerry la nuit, qui se produisent dans un orchestre hors la loi. Vous me suivez? Rapidement, les déclinaisons de Joe et Jerry se multiplient, à mesure que la guirlande, non, enfin le film, se déploie. Ainsi, quand les deux amis assistent par hasard à un règlement de compte mafieux et qu'ils doivent quitter la ville pour échapper à la pègre, ils n'ont pas d'autre choix que de modifier leur apparence. Ils deviennent elles, c'est-à-dire Joséphine et Daphné, pour intégrer un orchestre féminin en partance pour la Floride. Ce travestissement s'apparente à une nouvelle déclinaison d'eux-mêmes. Et c'est une étape de plus dans la guirlande qui va offrir à Billy Wilder l'occasion de nombreux quiproquos hilarants, mais aussi la possibilité d'une réflexion plus profonde sur ce que c'est que d'être une femme. Et ça continue. Dans le train, Joe Joséphine tombe sous le charme de la chanteuse de la troupe, Sugar. Il faut dire que c'est Marilyn Monroe qui prête sa plastique et sa voix à ce personnage. Poupoupidou, effectivement, dans le film. Et elle rêve de rencontrer un millionnaire à lunettes qui lira le Wall Street Journal. Ni une ni deux, une fois arrivé en Floride, Joe invente une nouvelle version de lui-même en la figure de Shell Junior, héritier fantoche du groupe pétrolier éponyme. On le comprend, l'éblouissement du film de Billy Wilder repose sur le talent des comédiens à incarner successivement et de façon de plus en plus frénétique une multitude de rôles en changeant de costumes, perruques, accessoires, mais aussi en modifiant leur voix, leur démarche et leur gestuelle. À partir de la matrice Joe et Jerry, se dévoile dans certains Lame Show une ribambelle d'autres personnages qui sont autant de déclinaisons des deux premiers. Comment ne pas se perdre dans toutes ces identités, dans ce mouvement incessant des apparences? C'est là que le film de Billy Wilder devient vraiment intéressant. Et c'est maintenant que je vous propose d'en écouter un extrait. Nous sommes au petit matin. Les deux amis se retrouvent dans la chambre d'hôtel qu'ils partagent, après avoir passé chacun de leur côté une folle nuit. Joe, déguisé en millionnaire, a flirté avec Sugar sur un yacht d'emprunt. Quant à Jerry, travesti en Daphné, il a dansé le tango jusqu'à l'étourdissement avec un véritable millionnaire, Osgood, lequel a fini par lui faire sa demande en mariage.
Quoi? Là, là! Osgood m'a demandé ma main le mois prochain, nous nous marions! Là, 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 là!
Mais voyons, tu ne peux pas te marier avec Osgood!
Tu le trouves trop vieux pour moi?
Jerry, tu ne parles pas sérieusement.
Pourquoi? Il passe son temps à épouser des filles! Ah là 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 là!
Mais tu n'es pas une fille, tu es un homme. Pourquoi un homme en épouserait-il un autre?
Pour être tranquille.
Ah! Il n'écoute rien, Jerry, tu devrais te coucher, tu es malade.
Mais vas-tu finir de me traiter comme un gosse? Je ne suis pas fou. Je sais que ça pose un problème.
Tu parles que ça en pose.
Sa mère, il nous faut son consentement, mais ça ne m'inquiète pas parce que je ne fume pas.
Jerry, il y a un autre problème.
Lequel maintenant?
Lequel? Mais que feras-tu en voyage de noces?
Lui et moi, nous avons discuté. Il voulait aller en France, mais j'ai insisté pour les chutes du Niagara.
Tu n'es pas dans ton état normal, Jerry. Comment vas-tu t'en sortir?
Oh, ça ne durera pas, je le sais, Joe. Je lui dirai la vérité au moment voulu.
Et quand cela ?
Tout de suite après la cérémonie. Ah. Alors je ferai une demande en divorce, il me servira une jolie pension, bien sûr, et chaque mois, je toucherai mon chèque. Et en avant, la musique.
Thierry. Thierry, écoute-moi.
Quoi ?
Écoute-moi, il y a des lois, des conventions. Ça ne se fait pas, ces choses-là.
Chut, Joe, mais c'est peut-être bien ma dernière chance d'épouser un milliardaire.
Écoute, Thierry.
Oui.
Jerry, veux-tu un bon conseil ? Il faut oublier cette histoire. Dis-toi bien que tu es un garçon. Tu es un garçon.
Je suis un garçon ?
Voilà, tu es un garçon.
Je suis un garçon. Je suis un garçon. Oh, je voudrais mourir. Je suis un garçon.
Alors la première chose que l'on remarque, c'est la virtuosité des dialogues. L'une des grandes trouvailles de Billy Wilder, ce sont ces maracas qu'agite Jerry et qui ponctuent sonorement chacune des répliques, comme pour laisser au public le temps d'en savourer le double sens. Et l'humour vient de ce que chaque personnage se raccroche à un registre différent. Pour schématiser, on pourrait dire que Jerry, tout à sa métamorphose en Daphné, prend chaque phrase au pied de la lettre. Il se refuse à entendre les sous-entendus de plus en plus explicites dans les propos de Joe. Et ce n'est qu'à la fin de l'échange que Jerry, à court d'arguments, finit par ôter sa perruque et se rendre à l'évidence. « Je suis un garçon ». C'est presque à regret que la déclinaison féminine accepte de recoller au personnage d'origine. La mise en scène accompagne ce trouble du personnage de Jerry. J'évoquais un peu plus tôt le frénétique mouvement des apparences dans le film. Eh bien justement, tout est mouvement et stabilité dans cette scène. Jerry, on l'entend grâce au maracas, passe son temps à se tortiller et à tourner sur lui-même, tout à son rôle de Daphné. Joe, quant à lui, reste statique. Seule sa voix s'emporte à mesure qu'il peine à convaincre son camarade de l'absurdité de sa situation. Et ce décalage d'attitude entre les deux personnages, renforcé par le cadre fixe de la caméra pendant presque toute la séquence, nous laisse penser que si Joe a bien prévu, dès que possible, de replier l'éventail de la guirlande pour reprendre son identité initiale, Jerry envisage de poursuivre la valse, ou plutôt le tango, des identités. Et c'est peut-être justement dans ce va-et-vient incessant de déclinaison de lui-même que Jerry trouve son moi profond. À notre tour, comme les personnages de Billy Wilder, ne craignons pas de choisir la réplique de nous-mêmes dans laquelle nous nous sentons le plus à l'aise à un moment donné.
Certains l'aiment chaud a été réalisé en 1959 par Billy Wilder. Il est disponible en vidéo et sur plusieurs plateformes de VOD.
Et peut-être au Vox en Mayenne.
Ah, sûrement.
J'espère.
Merci beaucoup, Margot, de nous avoir donné envie de revoir ce film. Caméra Subjective, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez réécouter l'émission en intégralité et retrouver toutes les références de ce dont on a parlé ce soir, ainsi que tous les autres soirs. Et ça se passe sur le site de Radio G, www.radio-g.fr, à la page de l'émission. On se retrouve dans 2 semaines. Il y aura les chroniques préparées par l'équipe. Je ne sais pas si vous connaissez déjà vos sujets ou non, ou ce sera une surprise. Ce sera une surprise, vous verrez, vous serez là. Il y aura la même équipe de choc. Et nous serons avec en invité Louis Garrel pour la sortie de son dernier film, L'Innocent.
Il vient ici ?
Il vient ici, ouais. Il est déjà venu, il reviendra. Est-ce qu'il vient ici ? En quelque sorte. Il vient ici dans la magie de la radio, Matt. Tu nous diras. En tout cas, son film sort le 12 octobre, la date de l'émission, donc ce sera complet. Voilà pour le programme à venir. D'autres choses ?
Des dédicaces,
c'est bien. Faites-vous plaisir si vous avez des dédicaces.
Ouais, en fait, moi, je voulais dédier la chronique de Margot à Christophe Codéran, qui travaille pour le dispositif lycéen au cinéma en Pays de la Loire. Et en fait, le film fera partie des films qui sont proposés aux lycéens qui vont aller voir 3 films dans l'année. Donc voilà, Christophe, je te dédie ce film que j'aime en particulier.
Certains l'aiment chaud, film très important et très actuel,
oui.
Je trouve, qui finit quand même avec cette fameuse scène où à la fin on dit « Nobody's perfect ». Et je trouve que c'est un très joli message à envoyer à des lycéens.
Ce sera notre coup de cœur. Oui, Véro.
Et puis Margot, tu peux nous chantonner la chanson tube de Certains l'aiment chaud.
Donc avec la BO de Bande de filles dans les oreilles, je suis pas trop sûre là.
Tu peux t'entraîner pour la prochaine émission. Merci à tous, bonne soirée, à dans 2 semaines.
Radio G. 101.5 FM.